Les cours du Collège de France, Peter Sloterdijk, Cher, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Bonjour et bon après-midi à tout le monde. Je suis très content de vous revoir, nombreux, et j'ai l'honneur de saluer en même temps M. Rémi Brague et M. Gilles Kepel qui vont participer au débat qui aura lieu après une petite pause. Mais pour les premiers, disons, 45 minutes, vous devriez vous contenter de moi. Et pour reposer, on vous offre une petite pause de 5 à 7 minutes. Donc, on reste bien dans le cadre temporel, bien prévu. Allez et enflammez le monde. Extrait du livre des expansions. Quand on se consacre à la mission de parler de l'Europe au cours de son long deuxième millénaire et surtout de sa deuxième moitié turbulente qui débuta avec le voyage de Christophe Colomb et vit les débuts du vol spatial, ne peut s'empêcher d'avoir recours à un terme désignant un mouvement et sans lequel on ne peut pas parler convenablement du mode d'être qui caractérise les habitants de ce demi-continent raviné situé en avant de la masse terrestre formée par l'Asie. Je veux parler du mot « expansion ». En allemand, c'est « Ausdehnung ». Et ce terme, sous sa forme d'extension, gardait encore son secret dramatique dissimulé chez René Descartes lorsque celui-ci, divisant le monde en une res cogitans, quelque chose pensant, et une chose res extensa, quelque chose étendu, banalisa la dimension de l'extension en en faisant une propriété des entités matérielles ou des corps en général. Goethe, à son tour, fit preuve d'un plus grand sens du potentiel d'agitation lié à cette catégorie quand il affirmait dans ses maximes et réflexions que nous, les êtres humains, sommes tributaires de l'étendue et du mouvement. Wir sind auf Bewegung und Ausdehnung angelegt. Il en tirait la conséquence, presque encore impensable à son époque, que ce qui avait jailli d'une source pouvait s'élever au-dessus des conditions de son origine. Et le vieux de Weimar ne s'en tint cependant pas aux généralités de la pensée de l'évolution. Bien avant que le héros de l'impérialisme britannique en Afrique du Sud, Cecil Rhodes, eût lancé dans le monde sa devise « Expansion » is everything. On pouvait lire dans Faust II, publié en 1832, une théorie quintessentielle de la modernité, présentée dans le style méphistophélien. On est parti avec deux navires seulement. Maintenant, nous sommes dans le port avec 20. On voit à notre chargement quelles grandes choses nous avons faites. La pleine mer libère l'esprit. Là, sait-on ce que c'est la réflexion? Là, on n'avance que par un coup de main rapide. On attrape un poisson, on s'empare d'un navire, on a la force, donc on a le droit. On s'inquiète du quoi et non du comment. Où je n'entends rien à la navigation, où guerre commence et piraterie forme une inséparable trinité. Les vers de Goethe montrent clairement que ce que l'on a appelé ultérieurement le pragmatisme ne doit pas être seulement compris comme la contribution tardive de l'Amérique du Nord à la philosophie continentale. Il en constitue encore bien moins l'antithèse « down to earth » de celle-ci. En tant que discours, placé dans la bouche du diable, il est issu d'une compréhension offensive de l'Europe par elle-même, au zénith de ses périples dans les lointains océaniques. Et tandis que les penseurs de la génération jeune hegelienne se consacraient à la tentative de ramener sur terre le ciel des idées, ou plus exactement sur le sol du vieux monde, Goethe avait compris qu'à l'avenir, la différence déterminante ne serait plus celle qui sépare le ciel et la terre, qu'elle soit conçue comme descendance du haut vers le bas ou transcendante du bas vers le haut. Ce qui lui paraissait décisif pour la suite, c'était avant tout la différence entre les ports et les mers. Et l'au-delà sur lequel on doit désormais compter, c'est l'autre côte, celle qu'on aperçoit après avoir traversé un océan. Et le premier pragmatisme qui s'est réalisé sous la forme de l'esprit d'entreprise maritime n'était par nature pas chez lui dans les universités de l'Ancien Monde et de la Nouvelle-Angleterre. Il n'y était pas non plus à Heidelberg ou à Iéna, où l'on avait le droit de raisonner avec la permission du seigneur local, tant que l'obéissance était assurée. Non, il résidait dans les ports, où entre les navires, à l'issue de leur traversée transatlantique, comme on peut le voir sur le frontispice du Novum Organon de Bacon en 1620. Des navires revenant au pays chargés de marchandises et de nouvelles connaissances s'y dirigent vers les débarcadères et Méphisto exprime avec clairvoyance le principe des mouvements maritimes. La haute sagesse est couronnée, le rivage est réconcilié avec la mer. Du rivage, la mer reçoit de bon gré les vaisseaux pour les emporter dans une course rapide. Et une philosophie qui voudrait réellement saisir son époque en pensée n'aurait pu se faire entendre que comme autorité portuaire logique. Et que ces doctrines ne puissent passer dans la pratique sans un supplément de désinhibition morale, on peut le déduire de la consultation du diable. Pourquoi te gênerais-tu donc ici ? Ne dois-tu pas depuis longtemps coloniser ? Et quand le pragmatisme diabolique de Goethe transpose la figure de la Sainte Trinité dans l'alliance de la guerre, du commerce et du piratage, il émet la supposition trop réaliste, mais en réalité étriquée, que les hommes ne se risquent à sortir sur les mers que sous l'influence de bas motifs, qu'il s'agisse de l'envie de pouvoir et de la cupidité, ou bien d'arrogance, ou encore parce qu'ils ne discernent sur le continent ni mission sensée, ni chance de bonheur crédible. On aimerait reconstituer la manière dont le thème de l'expansion a pris possession de l'homme européen au début des temps modernes, ne pourra se contenter d'approuver l'image de l'être humain défendue par le diable. Au cours des premières décennies de ce XVIe siècle, qui s'est mise en marche avec ce qu'on a appelé plus tard chez Carl Schmitt la prise du monde, die Weltnahme, par les membres des nations européennes en genèse, on ne percevait pas encore la moindre trace de cette tendance à l'expansion pour l'extension, Ausdehnung um der Ausdehnung willen, dont Hannah Arendt affirmait qu'elle constituait le trait essentiel de l'impérialisme. Il faut entendre par là le modus operandi des décennies entre 1880 et 1914, tel qu'il se manifesta surtout dans la mêlée pour l'Afrique. Au début des temps modernes, le motif de l'expansion était autant lié à l'esprit de la navigation maritime qu'à celui de l'affirmation du pouvoir politique. Il s'exprimait plus dans ce que Ernst Bloch appela jadis la fouille horizontale en quête de trésors, die horizontale Schatzgräberei, que dans la pression vers la formation d'États et des colonies. La pression vers l'extension était au début plus liée aux impulsions de la curiosité cosmogéographique et aux défis religieux que constituait la découverte des peuples non baptisés qu'aux besoins ressentis par les trônes rivaux de l'Europe de devancer les autres monarchies dans l'exploration du globe. Et les propos hyperboliques de Oswald Spengler sur la nature fatale de l'expansion ne peuvent encore en aucun cas être appliqués aux phases précoces de ce que l'on appelle depuis Jacob Burckhardt la découverte du monde et de l'homme, la grande formule issue du livre Von der Renaissance in Italien. L'ouverture des monarchies ibériques sur les terres d'outre-Atlantique n'a rien à voir avec la malédiction des hautes civilisations vieillissantes qui veut que celles-ci tombent dans une phase d'extériorisation vide et de tétanisation impériale. Quand Spengler notait « la tendance expansive est une fatalité, quelque chose de démoniaque et de monstrueux, empoignant l'homme tardif du stade grand citadin et abusant de lui. » Quand il formulait cela, il ne pensait pas à Henri le Navigateur ou aux Reyes Catholicos de Castille et Aragon, pas plus qu'à Charles Quint et Philippe II, dont les devises respectives, plus ultra, toujours plus loin, est orbis non sufficit, le monde ne suffit pas, témoignaient déjà de l'élan de la grande extraversion. Et le fait que l'archipel des Philippines, auquel on a donné le nom de l'enfant de l'Espagne, ait été intégré en 1585 au domaine du pouvoir de la couronne ibérique, ne peut s'expliquer par le ballonnement sénitule d'une civilisation agonisante. L'idole actuelle de Spengler restait le chercheur d'or et de diamants qu'était Cecil Rhodes. Il croyait trouver chez lui cette liaison entre absence de scrupules du chef d'entreprise, mégalomanie politique et surélévation raciste de soi-même, qui peut le mieux convenir aux missions de son temps. Et comme à ces qualifications s'ajoutait encore ce mélange piquant de messianisme et de cynisme qui caractérisait le charisme de Cecil Rhodes, il ne pouvait pas douter que cet homme fût à la hauteur des missions assignées à la phase faustienne tardive. Mais pour atteindre en revanche les sources plus anciennes et pré-politiques de l'expansion, il est indispensable de s'interroger sur les motivations des navigateurs des premiers temps, sans lesquelles les sorties en mer et leurs lourdes conséquences n'auraient pas eu lieu. On pourrait cependant aussi bien remplacer le mot motivation par des expressions comme délire, rêve éveillé, vœu pieux ou erreur directrice. Et le cas de Christophe Colomb est ici particulièrement instructif. C'est sur la base de ce qui l'animait que s'est constitué un amalgame indémêlable d'ambition et de superstition dans lequel s'était imbriquée la conviction fixée par autohypnose de la justesse de sa conception de la forme sphérique de la Terre. Or, la croix et le globe formaient la croix et le globe formaient la trinité de son univers. Et si cette synthèse bizarre put inspirer des succès réels, cela tenait d'une part au fait que la foi dans le globe avait été confirmée, même hyper-vérifiée de manière ahurissante par les voyages même de Colomb. Et elle put d'autre part exercer une influence, parce que la foi dans la croix se révéla aussi dans le Nouveau Monde, être un message d'une traduisibilité impressionnante. On pourrait tout aussi bien parler d'une haute élasticité interculturelle. Et pour finir, si elle put s'imposer, c'est parce que la foi en l'or, soutenue par la mise en esclavage des populations indigènes, a prouvé pendant des siècles sa capacité à motiver l'importation dans une culture monétaire préexistante des métaux précieux en provenance des zones périphériques. Un fait caractérise le personnage de Christophe Colomb. Il a développé une mission spécifique de message pro domo. Et dans son livre des prophéties, rédigé en 1502, rédigé trois ans avant sa mort, il notait « Ce que Ésaïe a prophétisé s'est accompli. Le Seigneur a fait de moi le messager d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. » Et des phrases comme celle-ci témoignent de la proximité de leur auteur avec l'esprit du début des temps modernes. Même s'il était resté, sous d'autres aspects, un homme du Moyen-Âge. Par exemple, dans la mesure où il voulait qu'on utilise les trésors du Nouveau Monde pour mener une croisade visant à la reconquête de Jérusalem. Et dans les propos que tient le navigateur, ce qui ressort avant tout est d'un phénomène que l'on pourrait qualifier de religion autogène. Au cours des siècles qui suivront, elle s'avérera être la matrice des subjectivités entrepreneuriales. Sans elle, l'existence des personnages typiques des temps modernes n'est pas concevable. Qu'il s'agisse de capitaines, de vice-rois, de banquiers ou d'artistes, sans parler des princes en fonction, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, parmi lesquels pratiquement tous ont fait usage d'auto-hypnose dans les tonalités locales de la théologie politique. Leurs prédicateurs médiévaux s'étaient déjà efforcés, le plus souvent avec l'aide du très haut clergé, d'interpréter leur position à la tête des pyramides sociales comme un sacrement politique, un politisch sacrament, et son exercice comme une fonction apostolique, à l'occasion en établissant une analogie entre l'Atlas, le Christ et le Prince, qui pouvaient tous les trois être présentés comme des porteurs du poids du monde. C'est une formule emblématique, onus mundi, le poids du monde, cargo. Et les détenteurs du pouvoir, de la conscience, de la mission à remplir et de l'initiative agissaient fréquemment comme des prêtres de leur propre cause en rédigeant eux-mêmes les nobles scénarios de leur action. Et Colomb se décrit presque comme un messie pourvu de voile. Conformément à son prénom, il pensait avoir reçu la mission de porter le Christ sur les eaux une fois de plus, en l'occurrence, cette fois-ci, au-dessus du gué atlantique. L'un des deux mots clés qui ouvre la porte d'une compréhension plus complexe des modèles modernes d'activité d'expansion sur le front océanique se trouve dans une déclaration faite en 1581 par Ignace de Loyola, le fondateur de la Societas Jesu, qui venait tout juste, en 1540, d'obtenir la reconnaissance du Saint-Siège. Il s'agit d'un commandement d'une portée historique, même s'il a été prononcé seulement de façon orale, qui aurait été exprimé, si l'on en croit la légende de l'ordre, avant le départ du Basque Francisco de Javier, 1500, 1503 jusqu'à 1552 pour sa mission indienne. It inflammate omnia. Allez et mettez le monde en flamme. Et peu de temps avant cette date, sur la base de la demande adressée au pape Paul III par le roi portugais Jean III afin qu'il envoie des missionnaires en Inde, Francisco avait été nommé nonce apostolique pour l'ensemble de l'Asie. Il arriva comme passager de la flotte royale en mai 1542 à Goya, qui était depuis 1510 le principal point d'appui des Portugais en Inde. Et il y déployait en quelques petites années une pratique mixte missionnaire qui connut à première vue un très grand succès. Il aurait baptisé plus de 50 000 indigènes. Et ne faites aucun doute que le verbe latin « inflammare » possède un sens apparenté, voire quasi identique, à celui du terme « évangélisare » devenu courant dans l'hémisphère de l'Europe latine depuis les temps antiques pour désigner l'activité apostolique. Et le deuxième mot de clé, permettant d'éclaircir la nouvelle situation est le terme missio, entré spontanément comme mot d'emprunt au latin dans les langues nationales modernes, mission en français, mission en anglais, mission en espagnol. En tant que distillat du travail jésuitique sur les concepts, celui-ci n'entre certes qu'au milieu du XVIe siècle dans le vocabulaire de l'Église et du monde, il s'imposa rapidement et avec autant de naturel que s'il avait été en usage depuis les premiers jours des Actes des Apôtres et de l'histoire de l'Église. Son apparition referma presque subrepticement une faille jusqu'alors ouverte dans le vocabulaire des cultures chrétiennes. Et dès lors qu'on parlait de mission, on disposerait pour l'avenir d'une expression qui désignait à la fois une action, sa justification et son organisation. Et l'ordre de mission ignatien, qui marque le début de la mission asiatique, citait indirectement, mais sans ambiguïté, le passage classique du Nouveau Testament, je veux dire Matthieu 28, 19, dans lequel Jésus, le ressuscité, envoie ses disciples pour exercer en son nom et celui du Père et du Saint-Esprit, par l'enseignement et le baptême, une œuvre de conversion aussi urgente que débordante. Et ce fut cependant d'abord dans un cadre temporel étroitement limité, parce que l'on suppose que le retour du Seigneur en majesté aurait lieu dans un délai très court. Et Ignace a regroupé cet ordre double, enseigné et baptisé, en une mission compacte, inflammate omnia. Mais le terme omnia latin pouvait sans doute remplacer de manière à peu près adéquate le grec panta te ethne, tous les peuples, mais uniquement sous la prémisse que les oreilles du début du christianisme y percevraient la synonymie évidente des peuples, ethne ou la gentes, et des païens. Et si inflammare n'incluait pas seulement le baptême, baptizein, mais aussi l'enseignement, ou le transformer en disciple, matetoian en grec, un trait offensif, en même polémique, voire polymogène, s'imposait dans la mission extérieure actualisée. Conformément à la nouvelle situation du monde après Christophe Colomb et Vasco da Gama. Les liens entre le thème de l'inflammation et la dynamique de la mobilité missionnaire n'apparaissent pratiquement en aucun point de la littérature avec une aussi grande clarté que dans un passage de l'Apologie de François Xavier que le prédicateur baroque allemand Abraham à Santa Clara, de l'ordre des Augustins aux pieds nus, fit imprimé en 1677 chez un éditeur viennois. Die heilige Hoffart, das ist ein schuldige Lobred von dem großen, wundertätigen Indianerapostel Francisco Xaverio. La sainte manière de la cour, c'est-à-dire un éloge respectueux du grand apostre miraculeux Francisco Xaverius auprès des Indiens. Il faudrait traduire cela dans le français de Rabelais, dont malheureusement je ne possède pas la pleine maîtrise, mais mon traducteur a fait tout ce qu'il pouvait. Et l'orateur y décrit la manière dont le missionnaire en Asie se hâtait d'aller d'un peuple à l'autre pour baptiser tout ce qui lui passait sous les yeux. Qu'est-ce que donc qui le propulsait ? Was hat ihn also trieben, sagte Abraham Alexandre. Was treibt eine Rakete? Qu'est-ce qui propulse une roquette? Si bien que, avec son appendice en bois, elle vole de ses propres ailes. Qu'elle fasse partout entendre explosion et bruit et creux. C'est d'un feu qui le propulse, car il a été propulsé par le feu de l'amour des âmes, cet homme miraculeux, tant et si bien qu'il prêche en tout lieu, sur mer, dans les vaisseaux, dans les églises en chair, dans les villes, par les rues. Un bon prédicateur doit être tel que le bœuf métallique de Berylier. Je pense qu'il confond ici deux histoires différentes et en vérité il veut parler du fameux taureau de Pharsalos. Le taureau de Pharsalos. Qu'ainsi concocte un cerveau tyrannique pour qu'il soit creux à l'intérieur et que si on ferme un pauvre homme dedans et allume ensuite un feu sous cette espèce de bœuf en métal, la chaleur arrache au malheureux force cris épouvantables et ces cris sortant de la bouche du bœuf paraissent moultement étonnants, comme si ce bœuf inanimé criait avec la voix d'un autre. Voce mugit aliena. Il fait un bruit avec la voix d'un autre. Un prédicateur doit être donc fait de telle voix que de sa bouche ne sorte pas sa voix, mais bien plus la voix de celui qui, telle une langue de feu, descend au-dessus des apôtres. Et ici, il utilise une citation de la Vulgate selon Matthieu. Non enim vos estis qui loquimine, sed spiritus patris vestri qui es in celis. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Père qui parle à travers vous, un Père qui est au ciel. Et mais les réflexions de Abraham à Santa Clara montrent que le travail d'expansion des missionnaires jésuites tentait de s'exprimer en expression pyrotechnique dans la mesure où les prémices médiumniques étaient mises en jeu de manière tout à fait explicite sur le plan spirituel. Et dans le cas du médiumnisme personnel, le message que transmet un locuteur n'est pas attribué à celui-ci, mais à l'émetteur qui parle à travers lui. D'ailleurs, le dernier grand penseur de la philosophie moderne, donc l'auteur central du idéalisme allemand, Johann Gottlieb Fichte, hein, dans ses derniers travaux, hein, il a le seul penseur qui a vraiment livré une profonde théorie de ce à travers, hein, parce que pour lui tout était image et projection. Et la subjectivité n'était rien d'autre qu'un canal plus ou moins ouvert ou fermé, hein, à travers lequel l'absolu s'exprime. Hein. Et là arrive le problème que, au niveau de la médiumnité, toutes les âmes sont du genre féminin. Hein. Il n'y a pas de masculinité au niveau psychologique. Hein. C'est une raison pourquoi l'homme en tant que tel est ontologiquement frigide, hein, parce que il s'avère, la plupart du temps, il s'avère impénétrable. Hein. Donc, Dieu serait tout simplement trop pénétrant. Hein. Et l'athéisme, hein, et son, le mouvement MeToo de la psyché européenne, hein, parce que il m'a aussi touché, hein, cochon dans les cieux. Hein. Donc, pardonnez-moi, parfois je fais des évasions un peu perverses, mais je pense que c'était nécessaire. Mais manifestement, le christianisme était depuis les débuts structuré comme un système de communication animé par un expéditeur. Et il s'expliquait spontanément et presque depuis la première heure par le concept de l'apostolat. Et commençant par les 12 premiers, on obtint avec le personnage de Paul, le 13e apôtre, autoproclamé une extension à des personnes qui n'avaient pas connu Jésus de son vivant. Il y eut ensuite une ramification par chaîne de messagers de deuxième, troisième génération et ainsi de suite. Et cela d'autant plus qu'il est devenu clair qu'au cours des décennies post-Christum natum, qu'on ne pouvait plus compter sur le retour du Messie dans un proche avenir. L'éclat discret du concept de mission, avec son universalité abstraite, se transforme d'abord directement en auto-explication de l'action conçue comme médiumnique. Et c'est la raison pour laquelle le pathos jésuitique de l'obéissance inconditionnelle n'est pas seulement dû à une idiosyncrasie du fondateur de l'ordre ou aux effets tardifs de son passé militaire. Il est fondé sur l'explication et l'explicitation devenue actuelle du schéma médiumnistique, sans lequel l'action d'expansion apostolique que l'on qualifiait désormais d'apostolique n'est pas pensable dans les conditions de la situation post-colombienne, post-Vasco da Gama, post-Magellan. On pourrait pratiquement affirmer que Ignace, dans une sorte d'action parallèle à la constitution pré-moderne des États, a créé un nouveau type de fonctionnaire sacré qui était assigné d'une manière particulière au souverain de l'Église. Et au sein de l'agence jésuite, l'obéissance monacale générale, ce qui s'exprime par les fameux trois vœux, se renforça pour devenir une obéissance spécifique au pape, scellée par le quatrième vœu, qui devait pour savoir se transformer en une obéissance inconditionnelle au supérieur. Et la construction de ce système d'abnégation échelonnée a imposé l'idée que le service sur le front des missions imposait un degré particulièrement élevé de désintéressement intéressé. Il devait garantir que les acteurs deviennent de purs canaux avec un minimum d'ivresse personnelle. Mais pas l'ivresse, non, quel est le bruit, hein? Dans la théorie de l'informatique, si un appareil produit des sons qui gênent, vous l'appelez comment? Bruissement. Le bruit. Mais c'est pas l'ivresse, non. Et donc des médias parfaitement perméables de leur message. Et si l'impératif catégorique de Kant, dans l'une de ses versions, disait en substance qu'on n'a jamais le droit d'utiliser son prochain, ni soi-même, uniquement comme un moyen, mais qu'on doit toujours aussi les respecter comme des fins, hein, dans les textes, agit de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout l'autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Hein? Et ici, il réserve, jésuitique intervient, qui dit que sauf dans le cas où tu fonctionnes toi-même comme un pur moyen du pape qui, pour sa part, exerce, en l'idéal, sa fonction comme un pur moyen de Dieu. La transcendance de la fin légitime de l'auto-instrumentalisation totale, pour peu qu'elle soit possible, un schéma qui est revenu provisoirement sous les prémices athées au début du XXe siècle chez les révolutionnaires professionnels formés par Lénine. C'est d'ailleurs le moment où l'intervention de Albert Camus peut attaquer, lorsqu'il disait dans un de ses écrits des années 40 tardifs, qu'il n'existe qu'une seule question philosophique, c'est la question du suicide, parce que le suicide est l'autre instrumentalisation absolue. Et ce schéma est revenu, comme je disais, provisoirement sous les prémices athées au début du XXe siècle chez les révolutionnaires professionnels formés par Lénine. Et l'idée de l'absence de qualité à laquelle Musil adressait un monument beaucoup admiré et peu compris remonte au médiumnisme sacré du chrétien en service au front extérieur, commandé d'après le concile de Trente. Celui-ci reprend pour sa part des motifs de la mystique des 14e et 15e siècles. On peut du reste décrire aussi l'histoire de la modernité dans son ensemble comme une profanation permanente et progressive des qualités personnelles de médium, jusqu'à la chanson des Pink Floyd, Brain Damage, publiée en 1973, d'où émerge ce fait remarquable. There is someone in my head, but it's not me. On a rapidement relevé les ambivalences de l'expansionnisme. C'est ce qui montrèrent les textes du dominicain Bartolomé de Las Casas et ses interventions favorables aux Indiens, durement exploités par les colons espagnols lors de la controverse de Valladolid, convoqué par Charles Quint en 1550. Et son collègue d'ordre, Antonio Montesino, mort déjà en 1528, l'avait devancé. Il avait déjà osé, en 1511, affirmer aux colons espagnols de Saint-Domingue, en présence du vice-roi Diego Colón, le fils aîné du découvreur, qui se trouvaient tous en état de péché mortel, puisque parce qu'ils avaient négligé d'aller au-devant des Indiens dans l'esprit de l'amour fraternel au lieu de les exploiter. Et avant même la fin du XVIe siècle, Michel de Montaigne dont le chapitre de ses essais, intitulé « Les cannibales », se détournant des valeurs traditionnelles et souvent marqué par l'hypocrisie en disant des tribus cannibales d'Amérique du Sud que nous, Européens, les dépassions dans toute espèce de barbarie. Et la plupart des Européens ne prirent que très tardivement conscience de toute l'ampleur d'ambiguïté, pour autant qu'ils parvinrent même à accéder à un moment de réflexion. Il ne resta pas grand-chose des anciennes certitudes liées à la mission, que ce soit sur le plan de la chrétienté ou de la civilisation tout court, quand on se mit à l'ère du début de la décolonisation à tirer le bilan des effets d'expansion. Une ombre lourde tomba sur la notion de mission en tant que telle, si bien que, ces derniers temps, un nombre non négligeable d'auteurs n'osait plus utiliser le mot en M, das M-Wort, quand catimini. Et certains cherchent une protection en affirmant que les ordres missionnaires ont été les précurseurs réels des réseaux sociaux. Mais au sens positif, le concept de mission ne demeurera utilisable dans sa version sécularisée. Elle suppose la transition de la notion apostolique de l'action vers un concept englobant tout effet actif produit sous n'importe quelle motivation expansive, peu importe que son orientation relève de l'esprit d'entreprise, dans la charité, des services secrets ou de l'armée. Il faut ajouter que lorsque le théoricien canadien de la culture, Marshall McLuhan, formule dans son œuvre principale « Understanding Media, the Extensions of Man », le principe de la théorie communicationnelle moderne, « The medium is a message », cela ne peut être interprété que comme un théorème crypto-théologique. Il constitue une forme sécularisée et non remarquée de la doctrine de Jean, selon laquelle dans le Logos, la parole de Dieu incarné, messager et message ne font qu'un. Et McLuhan avait appréhendé le déficit logique de la modernité au regard du fonctionnement des médias en général. Il avait bien compris que la culture moderne avait besoin d'une notion abstraite et universelle du message ou de la mission, notion qui dépasserait la différence entre le sacré et le profane, afin de pouvoir s'entendre de manière adaptée sur son agir communicationnel dans le Global Village, dans le village global. Et il croyait l'avoir trouvé avec le terme message ou message. Et celui-ci constitue une expression sur le palier de la plus haute abstraction auquel on peut affecter le concept mathématique d'information, lequel, quant à lui, possède aussi une préhistoire théologique. Et avec lui, on a atteint dans le domaine de l'agir télécommunicationnel, un niveau d'abstraction réelle abstraction, pour reprendre l'expression de Karl Marx, un niveau aussi élevé que celle qui s'est exprimée dans la sphère de la production, dans les systèmes industriels, par le concept de travail chez Adam Smith et Ricardo. Et comme l'avait souligné Marx, ce concept venait tout juste dans le système de la multiplication du capital de devenir compréhensible comme travail en général, travail sans phrase. Arbeit überhaupt, Arbeit sans phrase. McLuhan aurait pu souligner avec autant de justification qu'il avait fallu attendre l'époque moderne pour qu'on ait affaire à un message en général, à un message en phrase porté par un médium. Et le catholique discret qui était McLuhan, décédé en 1880, observerait cependant avec une tristesse croissante la manière dont l'interdépendance du média et du message se dissout dans les régimes numériques, dans la mesure où les providers du réseau affichent une indifférence presque illimitée face aux offres du content. Et ce qu'on appelait depuis le 19e siècle le nihilisme ne s'est réalisé entièrement qu'après le moment où le médium, ici entendu comme offre de réseau, s'est débarrassé de tout intérêt pour le message. Et les bons vieux démons de Dostoïevski ont pris leur retraite. Ils améliorent de temps en autre leur pension en prêtant assistance à l'État de Poutine dans son travail de démoralisation de l'Occident. Et sur les aspects de l'expansion globale de l'Europe, entre la traversée de Christophe Colomb et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui compte dans notre perception actuelle des événements parmi les plus gênants et en même temps les plus indéniables, on trouve le lien indissoluble entre les énergies expansives émanant de l'Europe et les conditions d'une stricte unilatéralité. Et c'est à cause d'eux que l'élément cinétique et la plénitude de la force d'initiative reposaient exclusivement sur la partie européenne, tandis que pour les partenaires qui se trouvaient sur l'autre rive, ne pouvaient plus jouer dans la majorité des cas que le rôle d'esclaves, de serfs ou des sujets, ou dans le meilleur des cas des collaborateurs exécutant pour le pouvoir des gouvernants locaux et autres subalternes. Peu d'historiens actuels posséderaient encore la nonchalance cynique avec laquelle Carl Schmitt constatait en 1950 dans son œuvre principale « Le nomos de la terre » dans le droit des gens du jus publicum européen en 1950, les découvertes se font sans l'autorisation préalable du découvert. Leur titre juridique réside donc dans une légitimité supérieure, ne peut découvrir que celui qui jouit intellectuellement et historiquement d'une supériorité suffisante pour appréhender ce qu'il découvre avec son savoir et sa connaissance. Et la supériorité intellectuelle était entièrement du côté européen. Il serait donc faux de dire que les Aztèques et les Incas auraient tout aussi bien pu découvrir et cartographier l'Europe que les Espagnols l'avaient fait avec eux et leur pays. Les fictions de la théologie de la mission selon lesquelles les peuples non baptisés du Nouveau Monde attendaient avec une fébrilité inconsciente leur découverte, leur conversion et leur rédemption ne sont pas seuls à révéler le malaise apparu de manière précoce dans l'asymétrie des relations. On le voit aussi dans un passage aussi notoire que symptomatique de l'épopée nationale portugaise Os Lusíadas, parue en 1572 en version imprimée, qui célèbre la découverte de la voie maritime vers l'Inde par Vasco da Gama en 1497. Et dans le quatrième chant de ce grand poème, deux personnages apparaissent en rêve au roi portugais Manuel le Chanceux, Manuel Oventuroso. Malheureusement, je ne dispose pas de traduction française valable de ce passage. Mais pour résumer, il y a deux hommes vêtus en couleur foncée, tout mouillés. Ils s'introduisent auprès du roi du Portugal en disant qu'ils sont le fleuve Ganges et le fleuve Indus. Et ils apparaissent dans son rêve, dans son imagination, pour le demander de prendre possession de l'Inde et de leur territoire. Donc, alors, la terre à conquérir, rêve du conquéreur, et invite, pour ainsi dire, cette mise en possession. Et dans la version écrite que vous aurez un jour, on aura trouvé une belle traduction française. Elle est très compliquée parce que l'original est en rime. Et c'est pratiquement pas du tout faisable dans les autres langues. Mais le poème onirique de Louis de Camoens, décédé en 1980, illustre que l'activité d'expansion européenne n'a pas seulement cherché à se légitimer par la fiction juridique du droit des découvreurs et par la suggestion que l'on pouvait sauver les âmes des païens au moyen des missions apostoliques. Elle s'appuyait aussi sur la fiction géopolitique que ce qu'il fallait découvrir avait une sorte de prévenance envers le découvreur, comme si celui-ci attendait en quelque sorte son futur maître avec impatience. Donc, les métaphores martiales étaient monnaie courante dans le jeu de langage jésuitique. Ce qu'on faisait là-bas n'était pas moins qu'une conquista espirituelle. Et de là aussi l'intérêt des instances colonisatrices pour les récits des mœurs cruelles, barbares ou suspectes chez les indigènes, qu'il s'agisse de mise à mort rituelle des enfants, d'incinération des veuves ou de polygamie. Et les descriptions des mœurs cannibales exerçaient elles aussi un grand attrait que l'on interprétait volontiers comme une preuve du modus vivendi semi-animal des sauvages auquel il fallait absolument apporter la mission. Et si l'on se consacrait à ce genre de phénomène, c'était pour pouvoir se féliciter de leur abolition. Et les plus sensibles sur le plan moral, des tenants de la colonisation, sauvaient leur conscience à l'aide de l'idée qu'à un niveau plus profond, que l'on qualifiait d'humain ou de métaphysique, on était attendu. Et ils n'auraient que trop volontiers cru que pour les convertis, le missionnaire était vraiment le message. Mais il devait toutefois forcément s'attendre à ce que, du point de vue des soumis, celui qui portait l'oppression demeurerait le message à proprement parler. Et il n'y a rien d'étonnant dans le fait que nous avons sommes entrés dans l'époque des réponses. Merci de votre attention surhumaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.